Devenir art, rencontre régionale des arts visuels qui s'est déroulée le 12 septembre 2025 à Talmetour, un podcast proposé en 4 épisodes et réalisé par Mélissa Vikilus ainsi que Louise Wallet. Épisode 3. Interview croisée de Anaïs Dune et Bernard Calais, tous deux artistes. Discussion autour de l'atelier ouvert au grand public et du travail de l'artiste. Nous sommes toujours sur ces rencontres régionales des arts visuels avec Devenir Art en ce vendredi 12 septembre 2025 et nous avons deux nouveaux invités à cette table. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bien, bonjour, moi c'est Anaïs Dune, je suis artiste plasticienne, j'habite et je travaille à Bourges et je pars en résidence en France et à l'étranger de temps en temps, voilà.
Moi c'est Bernard Calais, je suis artiste visuel, puisque maintenant il faut dire visuel,
oui.
j'habite à Tours, j'ai mon atelier à Tours, donc vie et travail à Tours.
D'accord, et bien qu'est-ce que vous faites ici ?
J'essaie de suivre quand mon emploi du temps le permet Devenir Art puisque c'est une association qui, c'est ce qu'on a entendu en tout cas toute la journée, qui nous permet de connaître un peu la situation économique, même si on la perçoit. Je suis assez privilégié donc puisque j'étais enseignant, donc j'avais un salaire tous les mois. Et j'ai un atelier, voilà. Donc, franchement, moi, j'ai cette chance. Mais les interventions qu'on a pu entendre au fil de la journée nous montrent qu'il y a effectivement des privilégiés, puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins.
Et effectivement, moi, je suis l'association Devenir Art depuis quelques années maintenant. Je suis rentrée au conseil d'administration il y a un peu plus d'un an, peut-être un an et demi. Et du coup, moi, je soutiens très fortement le travail que Devenir Art mène, c'est-à-dire la mise en réseau déjà, le fait de se rencontrer, enfin d'avoir des temps privilégiés de rencontres entre artistes, entre acteurs de la culture, et en fait ça permet de mettre des visages sur des noms, ça permet de parler, enfin de se rencontrer de manière informelle et puis formelle dans le cadre de ces rencontres et d'avoir accès voilà, à des sujets, des tables rondes qui nous touchent de près ou de loin mais en tout cas qui font partie de questionnements qu'on se pose souvent tout seul dans nos ateliers en tant qu'artiste visuel justement où on est des acteurs assez isolés et puis parfois avec des pratiques solitaires. Bon, après il y a des collaborations parfois mais pas pour tout le monde et ces rencontres-là ça permet voilà, le partage de questionnements et de doutes.
Et du coup, de se retrouver tous ensemble. Eh bien, tout à l'heure, j'ai rencontré Anne-Laure qui s'occupe du Festival Archipel et qui m'a un petit peu parlé de vous. Et j'aimerais bien savoir quel est votre lien avec ce fameux festival.
En tant qu'artiste privilégié, je continue. J'ai Anne-Laure, qui est une vieille amie puisqu'on se connaît depuis très très longtemps, m'a demandé si j'étais d'accord pour ouvrir mon atelier l'année dernière. J'ai répondu favorablement. Là encore, hein, on rencontre des artistes effectivement ici, mais quand on ouvre son atelier dans avec cette organisation qui est énorme, hein, c'est au niveau de la région, avec beaucoup d'ouvertures d'ateliers, là aussi, ça donne envie à certaines personnes qui n'oseraient pas rentrer dans l'atelier d'un artiste ou d'une artiste de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment, quelque chose d'important au niveau des échanges. Ensuite, le fait d'avoir ouvert son atelier une année nous donne, je crois que c'est systématique, la possibilité de montrer son travail dans un lieu de la région.
Et qu'est-ce que ça implique d'ouvrir son atelier ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ça soit rangé, accessible ? Enfin, j'ai du mal à concevoir.
Alors, effectivement, moi, ça me permet de faire un grand ménage.
Oui.
Ménage de printemps, un peu.
Voilà.
Ménage d'automne.
Printemps, automne. Non, mais c'est vrai qu'on essaie aussi de faire en sorte que les gens qui viennent puissent à la fois voir un peu le bazar de l'atelier. Enfin, moi, je suis assez bordélique. En nettoyant un peu pour quand même avoir cette attention envers les personnes qui viennent, et donc voilà, ne pas les laisser dans moi je m'y retrouve dans mon bordel, je suis pas sûr que les gens qui viennent puissent s'y retrouver.
Après, moi, ce que je trouve intéressant justement dans les visites d'ateliers, donc moi j'ai participé, ça fait depuis le début moi que je participe à Archipel, j'ai eu la chance d'ouvrir mon atelier quand j'étais en résidence à Châteauroux, donc il y a 2 ans, et l'année dernière j'ai ouvert mon vrai atelier qui est à Bourges, et cette année j'expose dans un lieu qui s'appelle la Porte d'Amont à Mans-sur-Loire, et en fait c'est vrai que par exemple dans l'ouverture d'atelier, en fait moi dans mon atelier c'est le bordel aussi, mais c'est mon univers, et en fait ça me permet en tout cas de faire le lien beaucoup plus facilement quand je suis dans l'atelier que quand je suis en exposition où j'ai extrait mon travail de mon foisonnement quotidien. Et en fait je trouve les échanges avec les gens qui y passent et qui sont quasiment tous intéressés, enfin ils viennent pas là pour juste pour par hasard quoi, je pense que c'est des gens qui sont intéressés en tout cas par ce que l'art peut provoquer, et c'est vrai que ça amène vraiment dans un univers, et souvent on me dit mais j'aurais jamais pensé qu'il pouvait y avoir tel ou tel lien, et en fait c'est souvent des surprises plutôt agréables.
Ça veut dire que ça fait un petit peu une transition moins brutale, entre guillemets, de l'artiste à l'exposition, alors que là, ça fait artiste, présentation d'atelier, exposition.
Alors, oui.
Ça fait plus un cheminement, du coup.
Alors, effectivement, quand j'expose, j'aime à faire le travail que je trouve normal, que d'avoir des temps où, effectivement, le public vient et où l'artiste, enfin moi en l'occurrence, et on me demande d'expliquer mon travail. Là effectivement, dans l'atelier, il y a des pièces. Enfin, c'est-à-dire que concrètement, quand je montre par exemple mes cahiers, où je fais des petits croquis, je note des idées, etc. Bon. Alors que dans une exposition, ces cahiers, je les amène pas.
C'est le processus, quoi,
voilà,
du coup.
Le processus. Je fais des petits boulots qui sont au mur, et là pour le coup je les laisse au mur, enfin j'enlève pas pour l'ouverture d'atelier des choses.
Et ce que je trouve riche moi aussi à l'atelier, c'est que j'ai autant mon travail et toutes les choses en cours, toutes les choses abandonnées aussi, qui sont dans un coin et qu'ils ont là quand même, et à la fois toutes mes références, des images d'artistes que je regarde, d'histoire de l'art, et donc c'est un foisonnement un peu complet comme ça.
Ça doit être hyper gratifiant, parce que des fois il y a certaines personnes qui doivent repérer par exemple un travail que vous détestez ou que vous avez caché dans un coin, qui dit oh ça c'est intéressant,
tout à
ça
fait.
C'est sympa,
ouais.
Donc l'atelier presque comme œuvre d'art au final, comme si c'était ouvert, peut-être une sorte de caverne artistique un petit peu.
Ouais, moi j'ai l'impression aussi qu'à l'atelier, j'ai les œuvres que je montre, donc les œuvres que je considère à un moment donné peut-être un peu finies, même si parfois elles évoluent encore et des fois c'est des contre-coups. Mais il y a aussi une grosse partie de mon travail, je pense, qui est à peu près, je ne sais pas trop combien, 70 ou 80%, que je ne montre jamais, mais qui participe vraiment, qui m'habite quoi, tous les jours. Et c'est ce que je trouve intéressant de montrer. Par exemple, moi, j'ai des collections de minéraux et de pierres, j'ai des collections de choses, et je trouve ça intéressant de partager, en tout cas, ces passions-là. Quoi.
Oui, de faire des articulations, justement, entre les pièces, effectivement, plus ou moins abouties, Et puis toute la doc en fait qui nous sert à développer un travail.
Et alors cet atelier, j'ai pas trop bien compris, il est ouvert au public en général ou juste aux personnes qui organisent le festival Archipel?
Ah non, il y a des brochures qui sont éditées, il y a des plans,
on et met des dates.
Des dates, il y a des affiches, on met des affiches. Non, tout est hyper organisé.
D'accord.
Et donc c'est un parcours, donc c'est sur la région Centre-Val de Loire, et donc effectivement il y a des temps forts par région, par département, et tel week-end il y a un temps fort dans le Cher, mettons, tel autre week-end ça va être... Et les expositions par contre sont peut-être un petit peu plus ouvertes que les ateliers c'est plus un temps fort de 2 ou 3 jours je crois. Et les expositions ont des temps d'ouverture un petit peu plus larges.
Voilà. Et pour en revenir à Devenir Art, puisque nous sommes à Devenir Art, nous sommes rémunérés pour ouvrir l'atelier. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais plus la somme, hein, c'est pas, mais c'est, voilà, c'est symbolique, enfin c'est un,
non, quand même
une somme symbolique, qui doit être l'équivalent du RMI, je crois.
Pour l'ouverture d'atelier, ouais. C'est symbolique, ouais.
Bon, après, c'est toujours
après,
ça,
pour l'exposition, ouais. Moins, mais effectivement, ouais, c'est...
Mais je pense qu'ils se réfèrent à la grille qui était à l'entrée, qu'ils ont mis en début de journée, ou qu'ils ont construit Devenir Art. Vous savez, il y avait une sorte de grille, je ne sais pas si vous avez vu, avec les tarifs en fonction des œuvres d'art.
C'est une base
avant,
de réflexion, ça. Ouais. Ce n'est pas du tout obligatoire,
c'est
justement la charte des bonnes pratiques. Et du coup, qui invite voilà, toutes les collectivités, tous les gens qui travaillent avec des artistes, c'est une grille de référence. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de...
Non, non. Mais... Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, hein, Anne-Laure l'aurait eu, mais le nombre d'artistes qui ouvrent leur atelier, je ne sais pas, c'est...
C'est énorme.
C'est un
énorme événement. Bah, le petit livret qui est là recense, je ne sais pas, au moins 50-60 lieux, hein. Ouais. Voire plus. Hein.
Oui, effectivement, là, on a la carte sous les yeux. C'est quand même assez élargi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, peut-être qu'entre vous, vous croisez, ça fait des sortes de flux de communication.
On essaie.
Oui, et c'est ce que permet le réseau Devenir Art, et je pense que Archipel a la même volonté, c'est de rayonner un peu, enfin voilà, autant de faire venir des œuvres de Pompidou, enfin ça peut amener des publics, je pense, différents dans la région, mais autant entre nous, enfin qui habitons la région, ça permet d'aller visiter ou rencontrer et de rayonner aussi, alors qu'on n'aurait pas forcément, on n'y aurait pas forcément pensé, ou on n'aurait pas...
Donc ça... Effectivement,
ça met en réseau. On se connaissait pas, voilà. Alors que je vois très bien ce qu'il fait.
Grâce à Radio Campus.
Ouais, bah super.
C'est une esthétique un peu radicale, un peu voilà, proche de l'art sonore ou de la performance. Bah ouais, hybridation aussi un peu entre des choses modernes et des choses traditionnelles. Et puis il y a le côté, je dirais, ouais, le côté un peu trans. Voilà, le côté ouais, essayer de se lâcher de ouais, expérience sensorielle un peu mystique, voilà, c'est
Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu votre pratique, chacun et chacune, dire un petit peu ce que vous faites, peut-être plastiquement ou
Oui, moi je travaille, je fabrique des installations, et donc j'utilise plein de matières et matériaux différents. Et je vais questionner ces matières, je questionne leur provenance, leur fabrication, ou leur, ça peut être des matières naturelles comme des matières industrielles, et je vais questionner leur impact, je vais questionner aussi l'usage qu'on en fait en tant qu'humain, et puis aussi les impacts voilà de pollution ou de enfin qui ont un impact sur dans l'écologie, et du coup je m'en empare de manière varié et assez intuitive aussi, et du coup ça, bah, je fabrique des œuvres voilà, très disparates, très éclectiques.
Alors je fais aussi des installations, mais j'ai aussi une pratique de peintre et de, enfin je fais très peu de peinture, hein, mais d'aquarelle, voilà. Mais on me demande plutôt de montrer mon travail autour d'installations, et j'essaie d'utiliser de plus en plus, ou plutôt, je reviens en arrière, une question qui m'habite, c'est vraiment la question de l'habiter. Et j'ai commencé à... Puisque habiter, c'est pas simplement habiter dans une maison, ou voilà, habiter, l'étymologie en tout cas, dit que c'est habiter un milieu. Et effectivement, l'habitation fait partie du milieu. Mais le jardin qui est autour, le contexte, c'est aussi du milieu. Et du reste, petit à petit, là, les mots évoluent, puisque maintenant, on parle de zone, du milieu, du lieu. Maintenant, on commence à développer, enfin, ou des philosophes et scientifiques développent cette notion de zone, et entre autres, de zone critique, qui est cet espace qui est sous nos pieds et juste au-dessus de nous. Donc voilà, puisqu'en fait, nous sommes des êtres, nous sommes des terriens, sauf que, bizarrement, la totalité de notre corps, ou à peu près, est dans l'atmosphère. Donc c'est aussi toute cette notion qui m'intéresse. Donc ça se concrétise, sans doute comme toi, avec des matériaux effectivement naturels, puisque les pierres, c'est grâce aux pierres et à l'évolution des pierres que petit à petit des plantes sont nées, ont produit de l'oxygène, le monde du vivant est arrivé et que nous, on est arrivé bien après.
Super démarche, en tout cas ça a l'air très très intéressant vos deux pratiques. Est-ce que vous avez peut-être pensé à une collaboration? Parce que quand vous parlez...
Je serais très intéressée en tout cas.
C'est très très drôle
de voir un peu plus près ton travail aussi.
Le fait que toi tu collectionnes des pierres et puis qu'à côté tu peins des pierres, des plantes, tout ça, enfin, c'est marrant.
Ouais. Ce matin on se demandait avec Anne-Lise, voisin, comment on pouvait rendre tangible en fait, le travail des artistes hors de l'œuvre que le public peut voir. Vous savez, comment on fait pour compter les heures de travail, sur quoi on se base en fait, pour expliquer aux financeurs qu'on veut être payé et que cette œuvre que vous voyez là, vous chiffrez à tant d'euros, en fait ça représente tant d'heures de travail. Et en fait je me demande si justement le fait de visiter vos ateliers, c'est pas ça en fait qui peut permettre aux gens d'imaginer en tout cas les heures de travail qu'il y a derrière une œuvre, parce que c'est ce que vous disiez tous les deux, il y a immersion en fait dans votre univers avec tous les objets, donc on imagine les lectures, le temps de réfléchir, d'imaginer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, c'est intéressant de réfléchir au temps de travail, mais en fait quand on crée une œuvre, on ne réfléchit pas au temps de travail, et en fait une œuvre elle n'est pas bonne parce qu'elle a beaucoup d'heures de travail. Enfin, en fait, une œuvre, elle peut être bonne, elle fait en 3 secondes et demie. Enfin, mais effectivement, ça va être toute la recherche, tout le processus, tous les moments, qui sont à l'atelier, qui sont incontables, qui sont pas tangibles, pas matérialisables. Mais c'est des questions intéressantes, quoi, pour nous.
Non, effectivement, moi quand je vais au cinéma et que je vois un film, tout d'un coup j'ai une image ou un son qui me percute et hop, je suis dans ma tête et je suis à l'atelier en train de...
On
est tout le temps en train de travailler, mais je sais pas s'il faut amener une notion un peu marxiste du temps de travail, de trucs. Je sais pas. Après, qu'effectivement il y ait des conditions acceptables pour que les artistes soient mieux rémunérés, ça j'en suis persuadé. Mais si c'est calculer les heures comme un artisan, enfin je sais pas, ça m'ennuie un peu.
Ouais, moi aussi, ça me questionne en tout cas aussi. Je pense que je suis pas dans cette démarche-là, même si c'est intéressant. Ouais.
Et même parfois, je vais à l'atelier, je reste une demi-heure. Hein. Et puis parfois, je reste 24 heures. Enfin, pas 24 heures, ouais. mais une vingtaine d'heures. Voilà, donc il n'y a pas... Il n'y a pas ce rapport au travail, à la sueur.
Il y a du labeur, quand même. Il y a cette idée-là de... En fait, je pense qu'on est habité, en fait, par, justement, comme tu dis, par nos pratiques personnelles ou collectives. Mais ramener ça à un temps de travail, c'est compliqué parce que, du coup, une journée de travail, pour moi, c'est pas 8 heures, en fait. Enfin, ça va être dès que je me lève, elle va être entrecoupée de plein de choses, et puis le soir aussi, et puis, en fait, un peu tout le temps.
Et même la nuit.
Quand tu fais tes courses, tout le temps, en fait, et même pendant les vacances, en fait. Moi, j'ai du mal à prendre des vacances. Quand je suis en vacances, je suis toujours en train de me dire « Ah oui, il faut que j'ai ça ou ça.
» En tout cas, si je devais quantifier le temps, je pense que les premières minutes, j'y penserais. Et ensuite... Je m'en fous, en fait, du temps que je passe.
C'est impératif, ouais.
Et au final, vendre une œuvre, c'est tout ce temps qu'on ne compte pas. Je pense que c'est un peu un forfait, en fait.
Mais là aussi, j'ai pas envie de compter en termes de temps quand je
vends
une œuvre.
Moi non plus.
Quand je vends une œuvre, c'est déjà une reconnaissance. Quelqu'un va s'approprier le travail que j'ai pu produire.
Déjà, c'est très gratifiant, je pense.
Donc déjà, c'est effectivement très gratifiant. Et même, voilà. Donc ça, déjà, c'est important. Mais après...
Mais le temps de travail, moi, ça correspond jamais. Enfin, quand j'ai vendu des travaux, et notamment des grands travaux où j'ai pu travailler dessus 2 ans, par exemple, je pense que ça ne correspond pas à un salaire de 2 ans, et même au SMIC, même, ça ne correspond pas.
C'est pas possible.
Alors, une question peut-être qui va fâcher un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre art pleinement? Ou est-ce que
Moi, je me considère aujourd'hui un peu privilégiée aussi. Alors, il y a des années avec, des années sans. Les 3 derniers mois, je viens de retourner au RSA. Donc, c'était une surprise pour moi parce que je pensais avoir dépassé ça. Enfin, depuis quelques années, j'avais plus le RSA. Et là, j'y suis retournée parce que pendant 3 mois, j'ai pas eu de revenus. Mais par contre, les mois d'avant, j'en avais eu. Et puis là, j'ai de retour. Donc, c'est fluctuant. Mais je me considère quand même privilégiée. J'ai fait le choix, je crois, il y a quelques années maintenant, de faire que ma pratique. C'est-à-dire, même si c'est des dossiers de montage pour obtenir des subventions ou quoi, j'ai décidé de faire que ma pratique. Alors, des fois, c'est facile. Des fois, c'est OK. Et puis, des fois, c'est difficile. Mais ça me convient mieux.
Alors, moi, j'ai enseigné très vite. Je suis sorti de l'école des Beaux-Arts assez vite. J'ai fait des remplacements. Puis, petit à petit... j'ai été titularisé et autres. Alors, ce qui veut dire que tous les mois, je pouvais manger.
D'accord. Oui.
Mais le revers, déjà c'est du temps, hein, mais après c'est une passion aussi d'enseigner. Hein, c'est faire réfléchir les étudiants et étudiantes sur leur propre travail, essayer d'amener un peu des éléments. Mais en même temps, le fait d'être nourri tous les jours fait que je n'ai pas développé, parce que je ne suis pas fait pour ça non plus, mais développé de stratégies pour aller chercher des expos, pour aller chercher des financements, des résidences, des trucs et des machins. Enfin. Donc voilà, donc j'attends qu'on vienne me chercher. Donc parfois on vient de me chercher, c'est le cas. Et heureusement, d'autres cas se présentent. Mais voilà, après aussi... j'aime bien présenter mon travail quand j'ai un intérêt à le présenter. C'est-à-dire que je ne fais pas des expos pour faire des expos.
Oui, bien sûr. Ouais, parce que je posais cette question, parce que moi, en étant étudiante ici à Talmetour, en 2e année, c'est vrai qu'aujourd'hui, être artiste, c'est... On nous dit, faut s'accrocher, quoi.
C'est un vrai choix, je pense. Enfin, en fait, c'est pas évident de trouver justement son équilibre entre l'équilibre financier, l'équilibre mental, l'équilibre. Et effectivement, moi, pendant des années, j'ai fait des petits boulots. Pendant des années, j'ai essayé de chercher. Ah, mais je peux peut-être développer une partie artisanale. J'ai passé peut-être 20 ans à chercher une manière économique, en fait, de financer mon activité, qui est plutôt non rémunératrice. Parfois j'ai de la chance, parfois je vends des sculptures, mais c'est avec le temps, en fait, ça se fait avec le temps. Faut pas avoir peur, effectivement, du temps, de l'engagement. Et moi, je pense que je suis contente de là où j'en suis actuellement, parce que ça a été un cheminement, et c'est un cheminement tous les jours, et c'est des choix. C'est des choix de... Et là, mon choix économique, c'est de parfois galérer beaucoup, d'être en difficulté, mais j'ai fait ce choix, en fait. Et l'inconnu, même si aujourd'hui, j'ai plus de mal à ne pas anticiper, c'est-à-dire que j'apprécie pouvoir voir à quelques mois ou années d'avance pour voir si ça va le faire financièrement, et parfois ça marche pas, en fait, ça. Donc et puis dans les temps actuels, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un vrai choix, et c'est vrai que je pense que il y a pas forcément beaucoup de monde qui sont capables de faire ces choix là enfin, c'est incertain, c'est douloureux, c'est des questions, c'est des questionnements, c'est des doutes, c'est compliqué.
Oui, mais enfin, c'est quand même bien de voir qu'il y a des personnes quand même qui s'en sortent.
Parce
C'est vrai que le discours est très très négatif, mais il y a quand même des choses positives qui ressortent aussi. Ouais.
À un moment donné, c'est ce que je disais aux étudiants, étudiantes, il y avait à l'époque 54 écoles. de Beaux-Arts. Si on compte, mais qui est minuscule, que 10 étudiants et étudiantes sortent, ça fait 540 futurs artistes sur le marché.
Chaque année, ouais.
Voilà, et quand je dis 10, je crois qu'on est plutôt autour de 20 ou de 15. Ou de 20.
Ah oui,
ouais.
Les promos, ouais.
Ouais, des promos.
Les promos.
Ouais.
Après, voilà, combien continue vraiment
et c'est là où ça chute. Ça. Il y a peut-être 1 ou 2% qui continuent à travailler.
Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut choisir son domaine, sa singularité, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont plutôt rassurés d'avoir un boulot alimentaire et qui ne peuvent pas faire leur pratique s'ils n'ont pas la sécurité financière. Moi, c'est complètement l'inverse. Si j'ai un boulot alimentaire, je me tue, en fait. Ça m'angoisse. Et donc, je pense que chacun trouve notre singularité, voilà, dans le fait de s'en sortir ou pas. Après, s'en sortir ou réussir ou gagner, ça c'est tout est relatif. Je pense que
c'est autre chose.
Ouais, ouais.
Mais après, il y a énormément d'étudiants et étudiantes aussi en sortant qui trouvent des emplois en médiation,
d'assistanat,
voilà, etc. Ouais. Il y a quand même ce sont des écoles qui ne sont pas spécialisées, en tout cas sur le marché de l'emploi. Mais dont le débouché est plutôt très bien.
Après, là, ce que j'ai... par exemple, moi, je suis arrivée dans la région il y a 5 ans grâce à la formation que j'ai faite aux Beaux-Arts de Bourges, le CEPIA, ça s'appelle. Et donc, c'est tout ce qui concerne les interventions artistiques. Donc, en tant qu'artiste, comment on se place dans une intervention artistique, dans des milieux, ça peut être les scolaires, la santé, le carcéral, tout un tas de milieux qui sont plutôt éloignés de la culture et voilà, les milieux sociaux aussi. Et justement, comment, en partant de sa pratique personnelle, comment monter des interventions. Et effectivement, moi, pendant quelques années, j'ai pensé aussi que ce serait un nouveau système économique pour moi. Et de à la fois pouvoir faire ma pratique d'un côté et à la fois de pouvoir monter des interventions qui partent quand même de ma pratique et qui nourrissent d'autres personnes et d'avoir une pratique plus collective. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une manière une manière économique parmi d'autres. Mais...
Devenir Art, rencontre régionale des arts visuels, un podcast en 4 épisodes, réalisé par Mélissa Vicilius et Louise Wallet, retrouvable sur radiocampustour.com.